Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'histoire se passe à Jackson, la plus grande ville de l'État du Mississippi aux États-Unis. La petite fille a 3 ans, elle a été grièvement blessée par les 3 pitbulls de son grand-père en avril 2013. Sa mâchoire est abîmée, son nez aussi, et son œil droit est fichu. Un cache-œil rose avec un dessin masque cette blessure, mais sur le reste de son visage, de nombreuses cicatrices sont visibles. Le côté droit de son visage est paralysé. Elle a subi plusieurs opérations pour reconstruire ce visage qui ont elles-mêmes laissé des traces. Elle se rend un jour déjeuner avec ses parents dans un restaurant de la ville, un KFC pour ne pas le nommer. Une fois installée, un employé de la chaîne de restaurants s'adresse à la famille et lui demande de quitter les lieux. Ils nous ont juste dit qu'ils devaient nous demander de partir parce que le visage de la petite dérangeait les autres clients, explique la grand-mère qui était là. La famille crée immédiatement un groupe Facebook et appelle au boycott de la chaîne. Elle récolte 50 000 likes. Une enquête interne est également ordonnée chez le restaurateur et 30 000 dollars vont être versés par la société pour payer les frais médicaux de Victoria et cacher ses vilaines cicatrices. L'histoire est racontée par le site Metro News. Elle sera suivie d'une contre-enquête tendant à prouver que la famille n'a même pas mis les pieds dans un KFC et que son récit est complètement inventé. Mais les cicatrices de la petite fille, elles, sont toujours là. Son visage a fait le tour de l'Amérique et il est arrivé jusqu'à nous. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, ce sont 3 autres histoires de cicatrices, des histoires de ce qu'elles cachent, de ce qu'elles révèlent et de ce qu'elles disent sur le monde dans lequel nous vivons. Elles sont racontées par Élodie Font.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Il y a quelques temps maintenant, j'étais avec des amis en boîte. On a un peu bu. Et puis bah là, au bout d'un moment, on s'est décidé de se rentrer. Et moi, je me souviens, c'est mon ami Jérémy qui s'est mis au volant. Au bout d'un moment, il s'est endormi, en fait. La voiture est rentrée dans le fossé. Et ma tête a tapé contre la vitre. La vitre s'est explosée aussi sous l'impact. Et je me suis pris en fait pas mal de bouts de verre sur le visage. Puis bah j'ai eu la joue déchirée. Avec l'alcool, je sais pas, je devais être un peu sous anesthésie, mais bon, un peu forcé quoi. Et non, je m'en suis pas rendu compte. C'est vraiment mes amis. En voyant en fait leur regard vis-à-vis de moi, ils m'ont dit mais faut qu'on aille tout de suite à l'hôpital et tout ça. Enfin, moi je comprenais pas. J'étais alcoolisé, j'étais fatigué. Et puis bah en fait c'est eux qui m'ont raconté hein, dans quel état j'étais quoi. C'était à l'hôpital, là j'attendais qu'on s'occupe de moi. Puis là j'ai vu ma joue un peu déchirée et tout. Ça m'a perturbé. Ça m'a vraiment perturbé. J'ai pas tout de suite réalisé en fait ce que ça impliquerait. Mais juste j'avais peur. Bah déjà, j'ai une peur bleue des hôpitaux, j'ai une peur bleue un peu de tout ça, un peu des médecins. Donc voilà, je savais pas trop ce qui allait m'arriver, quoi. Là j'ai vraiment balisé. Je pensais pas, voilà, que j'allais avoir une telle cicatrice. Et puis surtout ce que ça impliquerait au niveau du regard des gens, etc. Vous allez acheter votre baguette le matin, la boulangère vous regarde un peu comme si vous étiez un brigand. Même dans la rue, les gens me regardaient bizarrement, quoi. Ils me soutenaient pas mal le regard, quoi. Alors au début, je baissais la tête et tout, je cherchais à me faire tout petit. Puis à la fin, quand même, j'en avais un peu marre. Donc je m'amusais, en fait, avec eux à leur soutenir du regard, quoi. Et bah en fait, bah c'est moi qui gagnais.
Ça veut dire que quand même, à un moment donné, ça vous a fait un peu rire. Vous avez essayé d'en jouer, du coup, de cette cicatrice.
Complètement, ouais. Bah même, du coup, avec les femmes, au début, c'était un peu dur. Puis bon, bah à la fin, on essaye de faire des petites blagues. À ce niveau-là, on dit qu'on a, sauvé une vieille dame dans la rue. On s'est battu contre 10 personnes. Lacéré au couteau. Voilà, enfin bref, on essaye un peu d'en jouer, quoi. j'ai eu énormément de soucis pour trouver du boulot, quoi. À l'époque, je cherchais un peu dans tout. Et puis, je me faisais recaler sans cesse. Donc après, je me disais, j'ai pas forcément les qualités, j'ai pas forcément les compétences. Mais bon, pour le style de travail que je recherchais en même temps, travail de manutention, travail à la chaîne, etc. Je me disais, il n'y a pas vraiment besoin de prendre qualification. Alors, du coup, je me suis dit que voilà, ça pouvait être que ça. Puis même leur regard pendant l'entretien faisait que j'étais... Ils me rendaient mal à l'aise. Et au final, j'ai fini par trouver dans un petit bar. Donc une personne âgée qui m'a donné ma chance. Donc j'étais super heureux, quoi. Bon, par contre, après, c'était le contre-coup. C'était plus les clients ou là qui me posaient des soucis, en fait. Parce que, justement, on me regardait de travers. Puis j'avais qu'une seule envie, c'était de leur dire, oui, j'ai eu un accident. Et alors? Et après? Il n'y a pas mort d'homme, je ne suis pas méchant, je ne suis pas un brigand. J'avais vraiment cette impression-là, quoi. C'était vraiment de passer pour un tolard. C'est d'ailleurs ce qui m'a un peu poussé à faire quelque chose. Bon, je ne savais pas quoi faire à l'époque, hein, mais j'avais envie de faire quelque chose pour cacher, à minima cacher cette cicatrice, quoi. Intérieurement, ça me pesait. Ça me pesait. Et puis, on est dans une société aussi où le regard de l'autre est très important. Et où le physique aussi est très important. Parce que même, j'avoue, même le matin quand je me rasais et que je voyais cette cicatrice, ça me glaçait, ça me rappelait un petit peu les mauvais souvenirs, quoi. Donc ouais, non, il fallait que je fasse quelque chose, quoi. Puis finalement, j'ai fini par trouver un dermatologue. Puis j'ai tenté. C'est pas une opération qui se fait comme ça du jour au lendemain, quoi. Enfin... On n'efface pas la cicatrice comme ça en une opération. C'est vraiment un processus assez long, en fait, où il répare petite portion par petite portion, en fait, au laser. J'ai un peu balisé avant d'y aller, quoi, la première fois. Et puis non, au final, ça fait pas excessivement mal, quoi. Donc ça se répare assez bien. Puis disons qu'avec le temps, j'ai fini par plus m'en apercevoir, en fait. Et c'est vraiment là, en fait, où j'ai été le plus soulagé. C'est le moment où je me suis dit, il n'y a plus personne qui me regarde avec cet air de méfiance ou de mépris. Faut vraiment le savoir, que j'ai eu un accident aussi grave que ça pour savoir que j'ai eu une cicatrice un jour.
J'ai appris à 23 ans que mes reins étaient malades, qu'il fallait que je bénéficie d'une greffe et que j'allais me faire dialyser. Et j'ai entamé ma dialyse à Paris. Donc j'ai terminé ma dernière année d'études en me faisant dialyser 3 fois par semaine, 3 heures à chaque fois. La durée d'attente pour un rein est en général de 2 à 3 ans. Ça, c'est une moyenne. Ça peut être plus, ça peut être moins. Et donc moi, ça faisait 6 ans que j'attendais, et puis j'attendais sans attendre. Au bout d'un moment, la dialyse est un quotidien, on se dit plus « je vais avoir ma greffe peut-être demain », on oublie. Enfin, moi, je l'envisageais comme quelque chose de totalement abstrait. Je ne sais pas comment on peut envisager concrètement que le rein de quelqu'un que vous ne connaissez pas, ce bout de chair va être en vous, on va vous ouvrir, on va vous le mettre, et c'est ça qui va vous permettre de vivre. Je pense qu'à ce moment-là, si on veut que l'opération se passe bien, on ne se pose pas ce genre de questions. Ce qui est difficile par rapport à la greffe, c'est que on ne connaît pas les critères qui font qu'une greffe va tenir chez un individu et pas tenir chez un autre. On ne sait pas pourquoi, on ne connaît pas ce point-là, on est également soumis au hasard. Je me souviendrai toute ma vie, je pense, de la fois où je suis rentrée dans cet hôpital. Il faisait nuit, on m'a dit essayez de dormir, j'ai pas dormi, à 7 heures, fallait que j'aille au bloc. On m'a donné un cachet qui était censé me détendre. Je pense que ça m'a sonné, puisque je ne me rappelle pas de ce qui s'est passé après. Je me rappelle juste m'être réveillée dans la salle de réveil, avec les bras écartés, avec des fils de partout, l'impression d'être empalée par 2 trains et 3 bus. Et pourtant, je me sentais incroyablement bien. J'étais sûre que ça s'était bien passé.
Alors, le rapport à la cicatrice, il est déjà particulier dans la mesure où je n'en ai jamais parlé au médecin avant. C'est-à-dire que j'ai été dialysée pendant 6 ans et j'avais l'impression que demander des détails sur la cicatrice et des détails physiques, c'était futile. Donc ça paraît indécent de parler de ça. Donc c'est vrai que moi, j'en ai pas parlé. C'est des trucs que j'essayais de comprendre dans mon coin, sur Google et sur des sites, des magazines, des trucs comme ça. Bon, j'ai trouvé très peu de réponses. C'est comme si, en gros, le fait de se faire greffer ou le fait d'avoir une opération qui vous sauve la vie vous prive au final de considérer les aspects physiques et superficiels, quoi. Donc bon, du coup, cette cicatrice, j'avais pas envie de râler, mais oui, pendant 2 ans, oui, ça m'emmerdait clairement, quoi. C'est là, franchement, 15 cm la cicatrice. On a 23 ans, c'est pas parce qu'on est dialysé qu'on a plus envie d'être sexy, quoi. Et puis pour moi, oui, le rapport au corps est important. J'aime la sape. Voilà, je trouve que c'est beau une femme, donc voilà, j'essaie de prendre soin de moi. En même temps, je pense que n'importe qui a une cicatrice du jour au lendemain de 15 cm se pose des questions quand même.
Elle est où, cette cicatrice ?
C'est comme une cicatrice d'appendicite, mais en plus grande, à droite du nombril, dans le bas-ventre. C'est quelque chose d'intime aussi, parce que c'est une intrusion. Mais je la considère pas moche, je l'ai jamais considérée moche. Heureusement, je me dis pas, quand je vois cette cicatrice, si je l'avais pas eue, mon ventre aurait été plus plat, ou ce genre de truc. Donc, je me dis que j'ai eu de la chance. Je me dis que c'est fou, ce que j'ai vécu quand même. C'est dingue, une greffe. Et après, c'est d'autant plus dingue que vous l'avez sur vous, enfin... Moi, là, ma greffe ne marche plus, j'ai perdu mon rein, mais il est dans moi, quoi. On me la partirait encore. C'est très bizarre. Alors du coup, je pourrais regarder ma cicatrice en disant « Ouais, non, mais je suis dégoûtée. » Parce qu'on m'a ouvert, j'ai la marque, ça a changé mon corps, et pourtant, ce rein ne marche plus. Donc c'est du gâchis. Mais bon, j'ai compris que c'était la mauvaise façon d'appréhender la chose, dans la mesure où... Où cette cicatrice, c'est pas que le jour où on m'a ouvert et où on m'a posé ce rein. C'est tout un vécu, c'est tout un processus, c'est plein de choses, c'est une évolution de perception aussi, qui fait que non, c'est pas du gâchis, quoi. Et ça a duré 2 ans sans le moindre problème, mais c'est même pas que j'ai eu aucun problème, c'est que c'était parfait. Et j'ai eu l'impression, de toute façon, d'être dans Avatar, de me réveiller comme le personnage qui n'a plus ses jambes et qui, une fois connecté, peut courir. J'avais l'impression de ça, d'avoir une énergie nouvelle, c'est revigorant. Donc pendant 2 ans, ça a été vraiment, vraiment parfait. Et puis voilà, mon rein n'allait plus bien du tout. Mon corps était totalement empoisonné, puisque le rein est un organe régulateur. Et voilà, retour en dialyse depuis 1 an maintenant. Et puis voilà, oui, j'ai hâte d'être greffée de nouveau. J'ai hâte.
Et la cicatrice, ça veut dire qu'un jour, elle va être réouverte.
C'est une certitude. J'attends qu'elle se réouverte. C'est une porte de passage. C'est, voilà, on l'ouvre, on la referme. Maintenant, en tout cas, je sais à quoi elle ressemblera. Vu ce qu'elle représente aussi, de toutes les épreuves que j'ai traversées, mais même mentalement, plus que physiquement, elle me dérange beaucoup moins, par exemple, que une cicatrice que j'ai sur le mollet et que je trouve très inesthétique et que je me suis faite, en plus, en faisant un truc très con. Et puis quand je la vois, c'est une signature. C'est plus une signature qu'une tâche. C'est ou un défaut, ou ça signe ma vie, quoi. Et donc du coup, je n'ai non seulement pas honte de ça, ça ne m'empêche pas du tout de me mettre en bikini si je veux me mettre en bikini, ça ne m'empêche pas du tout de me sentir très très sexy.
Thank you.
France Culture, les pieds sur terre.
J'ai commencé à me sentir mal dans ma tête et dans ma peau, c'est de tout petit, hein, vers au plus loin que je me souvienne, j'ai dû commencer vers les 6 ou 7 ans, où j'étais déjà vraiment pas bien, ou rêveur, mais nostalgique. Et j'ai commencé à vraiment rentrer dans le vif du sujet, me scarifier, je pense vers les 21 ans, 22 ans. Je me sentais seul, pourtant j'avais des frangins, frangines, mais... J'avais des amis, mais qui restaient limités à l'école, puis au collège. J'en avais peu, j'étais dans une ferme, donc dès que l'école était terminée, je devais remonter pour m'occuper des animaux ou autre. Donc ça coupait quand même beaucoup la possibilité d'avoir des liens sociaux. J'étais pas d'accord avec ce qu'on me proposait dans la vie, ce que mon père me disait, ce que ma mère m'offrait. Enfin, mais j'étais pas dans l'agressivité, je me sentais mal. Voilà, et c'est après à l'adolescence où je me suis senti d'autant plus mal que je me sentais différent. Je me suis mis à manger. Déjà, je commençais à agresser mon corps en particulier. Donc voilà, il y avait déjà cette première approche du corps qui n'était pas une scarification, mais qui était une agression personnelle, mais physique. La seule alerte qu'il y a eu, je m'en souviens très bien, ça a été au moment où j'ai maigri. Voilà, où je suis passé en phase anorexique. À partir de 18 ans. En un été, j'ai décidé de plus rien manger. Lorsque je suis arrivé en terminale, à 18 ans, personne ne m'avait reconnu, parce qu'effectivement, j'étais passé de la taille... je faisais quoi? Du 46 ou 48, si mes souvenirs sont bons, et j'étais tombé en taille 36. Donc, j'avais ma salopée de taille 36, je me souviens très bien. Et la seule alerte que j'ai eue des adultes, entre guillemets, j'étais interne en ce temps-là. L'internat, un jour, m'a convoqué à 20h à l'infirmerie, en me disant, on a pris un rendez-vous pour toi à 20h chez un psy. Donc, soit tu y vas, ou soit tes parents sont au courant, et tu quittes l'internat, on ne veut plus. Le psy m'a proposé des médicaments pour moins angoisser, etc., des somnifères, des machins. Je devais être quand même très fort, puisque pendant des années, j'allais à la fac, j'ai passé mon DEUG et ma licence, sans savoir ce que j'ai fait. Je me réveillais un samedi, je me disais, merde, la semaine dernière, j'avais mes épreuves, est-ce que j'y suis allé? Je regardais dans mes papiers, je voyais que j'avais des brouillons, je me dis, bon, j'ai dû y aller. Je n'ai aucun souvenir d'y être allé, j'étais un zombie, je marchais au radar avec mes médocs pour m'éviter de penser. Voilà. Je voulais que le temps passe, que la vie passe. Et à un moment donné, la seule solution, c'était de faire souffrir physiquement le corps. Il fallait que je passe à un cran supplémentaire. Donc ce cran-là, je l'ai fait avec la scarification, donc je dirais vers les... 22, 23 jusqu'à 27, 28, par là, hein, où j'ai arrêté. Et cette scarification, c'était des lames de rasoir et c'était de faire couler le sang. C'était contradictoire, ça faisait mal et en même temps, ça faisait un bien fou parce que je pensais plus à tout ce que j'avais dans l'esprit. Quel bonheur de plus avoir toutes ces idées noires, toutes ces angoisses, tout ce poids qui est en permanence dans la tête, quoi. J'ai vécu en me détestant tellement pendant tellement d'années que, à un moment donné, ça devenait mon quotidien. C'est pas que j'appréciais, parce que je détestais ça. Je me revois dans des situations où je suis dans la rue, ça va à peu près bien, on va dire. Donc voilà, je marche, je me balade, je passe devant une vitrine, je me vois, mais en l'espace d'une seconde, je ne supporte plus d'être là. C'était surprenant. Je passais du coq à l'âne, mais en une seconde. Et dans ces cas-là, j'avais qu'une solution, c'est de rentrer chez moi et de m'enfermer. Tout ce qui pouvait être positif, tout ce qui pouvait être bien, ben je m'en servais contre moi. Je me souviens, à 20 ans, une amie à moi m'avait invité pour partir chez elle, je crois que c'était en Italie, en voyage. et je me revois, j'étais super content. Je me dis, ouais, cool, ça va me changer les idées, c'est bien. Et je rentre chez moi à pied, et d'un seul coup, je me vois penser, Bruno, ça te fait plaisir, le voyage qu'on t'a proposé. Puisque ça te fait plaisir, t'iras pas. Mais c'est vraiment comme si deux personnes parlaient dans ma tête. Mais voilà, je fonctionnais comme ça.
Il y a eu un déclic pour que vous preniez conscience que vous étiez mal, mais qu'il y avait peut-être un autre moyen d'avancer.
Je ne sais pas si j'ai eu conscience qu'il y avait un autre moyen d'avancer. Par contre, oui, il y avait eu un déclic vers 28 ans, par là. Une fois n'est pas coutume, j'ai mal, entre guillemets, préparé mon coup. C'est-à-dire que quelqu'un de ma famille est venu me voir alors que ce n'était pas prévu. Voilà, normalement, il n'y a pas de souci, personne ne le voit. Enfin, voilà, ça faisait des années que ça fonctionnait comme ça. Bref, c'est ma petite sœur, celle qui était le plus proche de moi, qui était venue me voir, qui m'a vu dans un drôle d'état. Je pense qu'elle a trouvé suffisamment ça choquant pour qu'elle fasse venir effectivement les pompiers. Je me suis retrouvé à l'hôpital, j'ai demandé ce qui s'était passé, et là, il y avait ma grande sœur qui m'a ramené chez moi, donc, et qui m'a dit, écoute, il va falloir que tu te fasses soigner, parce qu'apparemment, tu es quand même très mal. Sache que ta petite sœur a été extrêmement choquée, donc je t'interdis d'aller la voir ou de lui téléphoner tant que tu n'as pas fait le nécessaire. À ce moment-là, ça m'a fait vraiment réfléchir. Est-ce que ça, parce que ça touchait la famille, c'était mes sœurs, je sais pas. Toujours est-il que ça m'a fait tilt, effectivement, dans ma tête. La base de tout, ça a été ça. À un moment donné où j'ai accepté d'être mal, ça je le savais, et j'ai accepté de me dire, je vais essayer de m'en sortir, je vais essayer de trouver une vie normale. J'ai eu quand même 10 ans de psychothérapie avec deux personnes qui ont été très bien, qui m'ont beaucoup aidé. Maintenant, vis-à-vis de la famille, on a pu parler avec mes parents qu'effectivement, j'ai eu une période où j'allais pas bien, c'était allé... Oui, potentiellement très loin. Voilà. Eux n'y sont pour rien. Si je dois culpabiliser quelqu'un, c'est moi. Enfin, de quel droit je me permettrais de culpabiliser telle personne, les parents. Enfin voilà, il n'y a pas de mode d'emploi pour être parent. Donc, s'ils ont fait une bêtise, s'ils m'ont mis dans une angoisse, en aucun cas ils étaient responsables parce que c'était pas volontaire. Donc voilà, je peux pas me permettre d'en vouloir à telle ou telle personne. Si je dois en vouloir à quelqu'un, à la rigueur, c'est moi qui étais incapable d'en parler. Et qui est laissé grossir ce monstre-là pendant quasiment plus de 20 ans.
C'était des cicatrices, reportage Elodie Font, réalisé par Perret Legras. Merci à Fifia, à Bruno, à Christophe. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 16 mars 2015. Attachée de production Sandrine Chaperon, Aurélie Marseille. Et nous avons un stagiaire qui s'appelle Abdelrahim Chekroun. Merci également à François Connac qui s'est occupé de la réalisation de cette nouvelle diffusion.
everything. All these things, I want this one alone. All these things, I want this one alone.